Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Bonjour Éric Drus.
Bonjour.
Alors poète, philosophe, auteur de nombreux ouvrages, et puis ce dernier qui vient tout juste de paraître aux éditions Saint-Léger, Prêtez-Voix, un chemin de création à l'école d'Edith Stein. Alors c'est une école cette semaine avec vous, une école d'interprétation pour interpréter peut-être ou écouter ou entrer à nouveau dans cette écoute invite un déplacement intérieur, déplacement parfois physique avec de vrais choix.
Oui, des choix de recul aussi, temporaires, mais des choix de recul. Hein. Pour écouter, il faut du temps, il faut un climat propice, il faut éviter l'agitation, le bruit. Donc forcément, il y a aussi des choix très concrets.
Et parlons de choix, des choix aussi de sélectionner, de discerner dans l'information. Aujourd'hui, on s'agite beaucoup. L'information arrive de partout, des réseaux sociaux, télévision, presse écrite, radio, on est informé très vite et l'information arrive très vite. Est-ce que nous savons avoir ce positionnement pour discerner et se positionner face à la multitude d'informations?
Alors,
Éric, et ça rejoint un peu le domaine aussi de votre travail.
Oui, complètement. Je dirais immédiatement ce qui me vient à l'esprit au sujet de l'information, c'est la question du flux de l'information aujourd'hui qui est ininterrompu. Ça ne s'arrête jamais, c'est en boucle. Et d'ailleurs, pendant qu'on vous dit quelque chose, on vous écrit autre chose. Comme ça, on vous donne même plusieurs informations en même temps. Donc déjà, on sait très bien que du point de vue du fonctionnement du cerveau, l'être humain ne peut pas intégrer trop de données à la fois ou jusqu'à un certain nombre de données pour les traiter. Donc on ne peut pas traiter, c'est une illusion, le flux d'informations. Par ailleurs, je dirais c'est un problème de rythme. Un auteur disait, aujourd'hui il y a de la vitesse mais il n'y a plus de rythme. Il y a une temporalité de la compréhension. Comprendre une information, parce que ce n'est pas juste « j'ai entendu que », pour moi ça ne veut rien dire. Êtes-vous au courant? Pour moi ça ne veut rien dire. Si être au courant c'est simplement être capable de répéter le flux d'informations sans les comprendre, ça n'a pas d'intérêt. Donc de toute façon on doit tous faire des choix, on doit tous sélectionner. Et donc il faut de toute façon un recul. Ce qui compte pour moi c'est que il ne suffit pas simplement d'avoir entendu quelque chose, mais quelle lecture est-ce que j'en fais? Et de toute façon, par principe, en tout cas moi c'est une règle, je n'émets aucun jugement immédiat ou à chaud. Je me donne le temps. Parce que dans un climat qui est celui d'une hyper-émotivité dans notre société, où immédiatement on pollue l'information avec des états d'âme contradictoires, donc on ne sait plus très bien quoi en penser, il faut que les gens pleurent pour prétendre être au courant, ou se mettent à rire pour... Bon, donc ça ne veut rien dire. Donc j'entends, j'accueille, et puis, comme le faisait la Vierge Marie, j'essaie de repasser les choses intérieurement en écartant ce qui est secondaire. On n'a pas besoin forcément, face à certains faits, d'avoir beaucoup d'images, beaucoup de détails. Je trouve que parfois l'information tombe dans le scabreux, dans le détail, ça n'apporte rien. Et même, au bout d'un moment, qu'est-ce que ça fait? Moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'il y a une banalisation. On vous informe de choses très graves, mais loin de vous éveiller au caractère grave de l'information, eh bien ça devient banal. On peut siroter un apéritif devant des personnes qui meurent de faim. Bon voilà, ça ne gêne plus grand monde parce que ça fait partie du paysage. Donc moi ce que je constate, c'est qu'être au courant souvent, c'est s'habituer aux choses. Et moi je pense qu'il y a des choses auxquelles on ne peut pas s'habituer. Ou en tout cas, on doit garder du recul. Donc il faut sélectionner et apprendre à lire vous oblige à prendre du recul. Et cette attitude, on n'en a plus que jamais besoin aujourd'hui. Et ça ne veut pas dire être coupé de l'actualité.
Alors on pourrait penser, en vous écoutant cette semaine, philosophe, auteur de nombreux ouvrages où vous revenez aussi sur l'importance de cette intériorité, que vous, Éric Drus, vous avez ce déplacement, mais que vous êtes hors connexion, hors monde, hors société.
Alors,
ce déplacement est tel dans ce silence intérieur. Oui. Vous êtes où aujourd'hui? Est-ce que vous êtes toujours connecté au monde et à la vie?
Alors, je dirais.
Et aux personnes, Éric.
Je dirais avec un peu d'humour. Je ne suis absolument pas connecté, mais je suis relié. Alors, je n'aime pas. Je ne suis pas connecté.
Le terme de connexion est à la mode
mais
aujourd'hui.
Justement,
hein. On est un peu dans ce suivi aussi, dans voilà, le langage
tout à fait.
Du monde.
Donc, je ne suis pas connecté, mais je suis relié. J'essaie d'être relié à la vie. J'essaie d'être capable de regarder encore quelqu'un dans le regard, dans les yeux. J'essaie d'écouter ce qui m'est dit quand ça m'est dit pour essayer de laisser résonner en moi ce qui m'est dit. Donc, j'essaie d'être relié à la vie et pas de rester en surface et de surfer sur la toile, comme on dit aujourd'hui.
Voilà,
je suis ni connecté, ni un surfeur sur la toile. Je suis un être qui s'est intéressé par le monde, intéressé par la vie, intéressé par les grands enjeux. Mais je pense qu'en fait, il y a assez peu de questions essentielles. Ce sont toujours les mêmes. Elles touchent à la vie, elles touchent à la finitude, elles touchent à l'amour, elles touchent au respect, des grandes questions. Et puis, il y a beaucoup de bavardages, beaucoup d'anecdotiques. Les anecdotes ne m'intéressent pas, je n'ai pas le temps, tout simplement. C'est très pragmatique,
je
vous le dis.
Et on en revient toujours à la question aussi du temps, hein, et de...
Oui.
L'urgence.
L'urgence sans la précipitation. Je disais, il y a de la vitesse, aujourd'hui, il n'y a pas forcément de rythme. Et il y a une temporalité intérieure. C'est-à-dire, il faut patienter. Il y a forcément du temps entre le moment où vous recevez une information, le moment où elle se dépose en vous, le moment où vous en comprenez le sens, le moment où vous en tirez quelque chose pour votre vie, le moment où vous pouvez avoir une parole aussi. Parce que je ne crois pas qu'on puisse s'exprimer à chaud sur l'information. Parce que pour s'exprimer à chaud, il y a tout un processus de compréhension.
Aujourd'hui, on s'exprime très vite, des débats à chaud, des informations qui défilent.
Ce ne sont pas des débats, c'est de la cacophonie. Chacun y met du sien. Et d'ailleurs, quel est le sentiment souvent quand on écoute ces débats après? Qu'est-ce qu'on a retenu? Rien. On a vu des gens s'exciter, gesticuler. On a entendu du bruit. Mais qu'est-ce qu'on a recueilli qui nous donne une certaine intelligence sur très peu de choses? Donc, moi, je préfère des paroles qui sachent se réserver et qui font le choix de parler moins pour être plus concentré. La question étant toujours, qu'est-ce que je communique et quelle est la consistance de ce que je donne?
De parler moins pour peut-être entrer dans cette véritable écoute avant de parler.
C'est parfaitement cela, puisque je me souviens toujours qu'avant le début d'une parole, il y avait le silence, et ensuite, après la parole, j'entrerai à nouveau dans le silence. Autrement dit, la loi de la parole, c'est le silence. La parole s'inscrit entre un silence et un autre silence. Déjà, une parole qui ne laisse plus sa place au silence, c'est un mensonge. Ce n'est pas une parole. La parole ne peut naître que du silence et doit, à un moment donné, consentir à entrer dans le silence. Donc déjà, toute parole qui relève de ce que Heidegger appelle l'ébruitement n'est pas une parole pour moi. Donc déjà. Et deuxièmement, il faudrait qu'une parole laisse à l'autre la possibilité du silence pour l'écouter. Une parole qui remplit tout. Une parole qui viole l'espace intérieur de l'autre, qui le capture et qui le remplit contre le consentement de l'autre, n'est pas pour moi non plus une parole. La parole et le silence, si vous voulez, le silence, c'est l'épreuve de vérité de la parole. Une parole sans silence, elle n'a plus de vérité. Une parole qui n'invite pas au silence pour être à nouveau accueillie et entendue n'est pas vraiment une parole. Donc c'est très exigeant. Rien ne semble plus facile que de parler, mais rien n'est plus redoutable en fait que la parole.
Alors on joue aussi également aussi l'écriture.
Bien évidemment.
Oui.
Bien évidemment. Je me dis souvent, vous savez, c'est assez vertigineux.
Parce qu'on écrit beaucoup, on a beaucoup d'auteurs, on multiplie aussi les écrits.
Je souris en vous entendant parce que je vous avoue que moi-même, parfois, je suis pris de vertige lorsque je vois le nombre de publications qui paraissent régulièrement. On se dit, franchement, je vous l'avoue, qu'ai-je le droit de publier et est-ce que je peux ajouter à ce flux un ouvrage de plus? Donc pour moi, il y a deux critères. Tout d'abord, cela ne doit pas m'effrayer parce que est-ce que ce qui a dicté mon écrit, c'est une nécessité intérieure? Donc tout ce que j'écris doit provenir d'une nécessité. Si je peux ne pas l'écrire, alors je ne l'écris pas. C'est souvent le résultat d'une nécessité qui m'a travaillé, qui m'a douloureusement déplacé. Thérèse d'Avila disait « Si je donnais mon avis, je demanderais qu'on ne renonce pas à mettre en œuvre une bonne inspiration qui nous harcèle souvent. Ça veut dire que si on est tenaillé par une nécessité intérieure, alors j'obéis.
Donc voilà, et il y a toute la question, et c'était cette question aussi de l'obéissance. Et, oui. et on obéit à quelque chose de plus grand, qui vous dépasse.
Qui nous dépasse.
C'est cet appel à une obéissance qui doit conduire à cette vérité.
Exactement, c'est pour ça que j'aime l'image de la voix, parce qu'une voix...
Et on rejoint le serviteur.
Et on rejoint le serviteur, d'ailleurs Saint Jean-Baptiste, c'est la voix qui crie dans le désert. Il y a un très beau texte d'Augustin.
Et le serviteur obéit.
Et le serviteur obéit, il écoute hein, d'abord, et donc il peut obéir, s'ajuster à ce qu'il a écouté. Et Augustin dit, pour qu'on ne confonde pas la voix et la parole, Jean-Baptiste et Jésus, donc la voix elle annonce. Et pour moi la voix c'est juste un intermédiaire. Donc écrire c'est prêter voix, c'est donner corps, c'est livrer passage à quelque chose. C'est pas ma voix qui m'intéresse en tant que telle, c'est pas moi dont il est question, c'est ce qui m'a travaillé, enfanté, renouvelé, rendu plus vivant, et donc ce qui est une force de vie, c'est ça qui doit passer.
L'écrivain, un peu comme Jean-Baptiste qui préparait et qui criait au désert, se fait serviteur et prépare le chemin.
Il prépare et il doit d'abord le préparer en soi-même.
Oui, ça paraît tellement évident.
Voilà, mais ça paraît évident, vous avez raison de le rappeler.
Il est invité à avoir fait lui-même cette préparation et ce chemin.
En tout cas, sinon, c'est sa parole qui va le juger.
Pour être le plus honnête, hein, voilà. Le plus vrai.
Le plus vrai, le plus intègre, hein, le plus juste, le plus intègre. Ça ne veut pas dire qu'on ne soit pas plein de fragilité, de limites, mais au moins une droiture, une intégrité, qu'on ne se raconte pas des histoires et que ce que l'on essaie d'offrir, on puisse le soutenir, on puisse ne pas en avoir honte, on puisse se dire, ben là, j'ai offert quelque chose qui a du prix pour moi et qui peut-être pourra aider d'autres personnes.
Alors moi j'invite beaucoup à découvrir ce dernier livre, Prêtez voix, j'ai plongé dans ce livre et je le conseille à beaucoup. Entrons dans ce déplacement, donc écoutons et discernons et puis osons nous risquer, c'est un risque, il y a une audace.
Mais la vie elle-même est une aventure, exactement. On ne gagne étonnamment qu'en sachant perdre.
Éric de Rus, rendez-vous demain.
Merci, à demain.